Radio Prague, les informations.
L'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín, thème central de la visite de Dmitri Medvedev. Manifestation contre la falsification des résultats des législatives en Russie. Mise en cause pour un appartement oublié en Floride, le ministre de la Culture démissionne. Le président russe Dmitri Medvedev a poursuivi ce jeudi sa visite de deux jours en République tchèque. Le chef du Kremlin a notamment été reçu par le président tchèque Václav Klaus. L'occasion pour les deux hommes d'évoquer l'appel d'offres pour l'achèvement de la centrale nucléaire de Temelín. La société russe Atomstroy Export fait partie des trois groupes en course pour l'obtention de cette commande énergétique parmi les plus importantes dans le monde. C'est en présence des présidents russes et tchèques, Dmitri Medvedev et Václav Klaus, qui ont été signés ce jeudi au château de Prague, des contrats entre des sociétés tchèques et russes pour près de 2,15 milliards d'euros, 54,3 milliards de couronnes. Il s'agit entre autres d'un contrat pour la construction de 390 km de chemin de fer dans la région de l'Oural ou d'un contrat sur la création de la société tchéco-russe Alvel qui assurera les livraisons de combustible nucléaire. Plusieurs dizaines de manifestants ont protesté ce jeudi devant le château de Prague contre la falsification des résultats des récentes élections législatives en Russie. Ils ont apporté aussi des pancartes avec des portraits des journalistes et juristes russes assassinés au cours de ces dernières années. La manifestation s'est tenue au moment où le président tchèque Václav Klaus donnait au château de Prague un déjeuner officiel pour son homologue russe Dmitri Medvedev. Les présidents tchèques et russes, Václav Klaus et Dmitri Medvedev, ont inauguré au manège impérial du château de Prague l'exposition intitulée « La cour impériale sous la dynastie des Romanov ». L'exposition évoque la vie de la famille impériale, mais aussi la vie quotidienne en Russie au XVIIe et XVIIIe siècles. Jiří Besser a démissionné de ses fonctions de ministre de la Culture jeudi matin. Accusé d'entretenir des relations avec un homme d'affaires condamné pour corruption, Jiří Besser avait reconnu d'avoir omis de faire état de ses parts dans une société basée aux États-Unis et de l'existence d'une propriété en Floride d'une valeur de 230 000 dollars. Le taux du chômage en République tchèque a légèrement augmenté en novembre et s'est élevé à 8%. 476 000 personnes étaient donc sans emploi. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. L'Association tchèque des pilotes de transport a lancé une pétition pour sauver la compagnie CSA. Les pilotes lancent un appel à la privatisation rapide de la CSA et protestent contre les transferts des biens de la compagnie dans une société affiliée et contre les licenciements de pilotes. Météo. C'est un temps très variable qui règne sur la République tchèque. Ce jeudi, jour de la fête des Kvetoslava, les précipitations alternent avec les éclaircies. Quelques chutes de neige sont également prévues au-dessus de 400 mètres d'altitude. Les températures varient entre 1 et 5 degrés pour les maximales. Vendredi, le ciel en Tchéquie sera couvert à nuageux avec de la pluie par endroits. Les températures maximales se situeront entre 5 et 9 degrés. C'était les informations de Radio Prague, présentées par Václav Richter. Et je cède le micro à Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Václav pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figure tout d'abord une nouvelle affaire politique mise en cause pour avoir oublié, selon ses propres dires, de mentionner un appartement aux États-Unis dans sa déclaration de patrimoine. Jiří Besser a démissionné de ses fonctions de ministre de la Culture. En l'espace d'un an, il s'agit du 7e ministre de la coalition gouvernementale contraint de démissionner, soit près de la moitié d'un cabinet qui a pourtant fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. Plus de détails sur le sujet dans quelques instants. Nous vous présenterons ensuite avec son vice-président l'association nouvellement fondée à Paris des étudiants et jeunes professionnels tchèques en France. Et puis la rubrique du jour dans la seconde partie de cette émission sera consacrée au portrait de Václav Radimsky, un peintre impressionniste tchèque qui a passé 28 années de sa vie en France et qui avait notamment pour ami Claude Monet. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. « On commence donc avec de la politique. La coalition gouvernementale a perdu le 7e de ses 15 membres en l'espace d'un an. Mise en cause pour avoir omis, selon ses termes, de déclarer la possession d'un appartement en Floride, le ministre de la Culture, Yehji Besser, a remis sa démission jeudi matin. En novembre dernier, Martin Kocsorek avait été le dernier contraint de quitter prématurément la coalition gouvernementale, soupçonné de corruption comme d'autres de ses collègues avant lui. Celui qui était le ministre de l'Industrie et du Commerce s'était alors embourbé dans sa défense, incapable d'expliquer d'où provenaient les 16 millions de couronnes soudainement apparues il y a quelques années sur le compte bancaire de sa mère. Très mal à l'aise devant les médias, Martin Kocsorek avait même indiqué avoir voulu, selon ses propres termes, détourner cet argent de son épouse dont il divorçait au moment des transactions douteuses. La défense pitoyable du ministre en avait fait s'esclaffer beaucoup, certains de rire, d'autres de désespoir devant l'incongruité dont beaucoup de responsables politiques parmi les plus haut placés continuent de faire preuve, et ce, en dépit de l'accumulation des scandales. Cette fois, c'est donc le tour du ministre de la Culture. En fin de semaine dernière, a été publiée l'information selon laquelle Yehji Besser possédait des parts dans une société par l'intermédiaire de laquelle a été acheté un appartement d'une valeur de 230 000 dollars en Floride, un bien immobilier aux États-Unis que le ministre n'a cependant pas mentionné dans la déclaration de patrimoine que sont tenus de remplir les politiques tchèques. En outre, Yehji Besser est accusé d'avoir eu pour associé un homme d'affaires condamné il y a un mois pour corruption. Autant d'accusations que Yehji Besser réfutait encore en début de semaine. On l'écoute.
Je ne me suis enrichi personnellement d'aucune manière et je ne me suis jamais servi de la société en question pour aucune de mes affaires. Ceci dit, je ne suis nullement attaché à mes fonctions de ministre et si quiconque peut prouver que ce que je dis n'est pas vrai, je suis prêt à démissionner dès que la loi relative à la restitution des biens aux églises aura été soumise au Parlement, c'est-à-dire avant la fin de l'année au plus tard.
Finalement, Yehji Besser a rendu son tablier plus tôt encore. Jeudi matin, de retour d'un voyage officiel de 2 jours au Vatican, il a fait savoir que, faute du soutien de son parti et du gouvernement, il avait envoyé sa démission au Premier ministre. À l'annonce de cette décision, Petr Gazdík, le leader du parti appelé maire et indépendant, parti dont Yehji Besser est membre, a réagi en affirmant qu'il s'agissait, je cite, d'une contribution à l'amélioration de la culture politique en République tchèque. Dans les milieux culturels, nombreux sont ceux à penser que la démission du ministre est aussi une contribution à l'amélioration de l'ensemble de la vie culturelle. Durant son année et demie passée à la tête du ministère de la Culture, Yehji Besser, dentiste de formation et ancien président d'un club de hockey sur glace, a surtout fait parler de lui en donnant son aval à la démolition d'une maison historique sur la place Venceslas dans le centre de Prague, avec son projet de fusion de l'opéra d'État avec le Théâtre National, ou encore en ne s'opposant pas à l'augmentation du taux de TVA appliqué sur les livres. Résumé, le mandat du désormais ex-ministre de la Culture à ces quelques dossiers sera toutefois par trop réducteur et oublié par exemple son implication dans le projet de loi sur la restitution par l'État tchèque des biens ayant appartenu aux églises du pays, une restitution qui jamais sans doute depuis la chute du régime communiste en 1989 n'a paru aussi prête de se concrétiser. Le successeur de Yehji Besser au poste de ministre de la Culture devrait être nommé en début de semaine prochaine. Étudiants et jeunes professionnels tchèques en France, tel est le nom de la nouvelle association fondée il y a quelques semaines à Paris. Pour en parler sur notre antenne, Alexis Rosenzweig a joint le vice-président de cette nouvelle association, Dominique Zundt.
Dominique Zundt, bonjour. Vous êtes donc le vice-président de cette nouvelle association des étudiants et jeunes professionnels tchèques en France. Alors, de quand date la création de votre association et quel est, en gros, peut-être son principal objectif?
Bonjour. L'association a été créée en octobre de cette année, donc octobre 2011. Et son objectif principal, c'est de créer des liens entre les jeunes tchèques et slovaques aussi, parce que nous sommes bien entendu ouverts à tout le monde, qui sont en France, que ce soit pour un séjour d'échange universitaire, pour travailler ou pour poursuivre l'ensemble de leurs études. Parce que nous avons constaté qu'il y a en effet pas mal d'activités, pas mal de communautés autour du centre tchèque, par exemple. Il y a la communauté en ligne Petite Prague. Mais finalement, il n'y avait pas vraiment un endroit ou une association ou une organisation vers qui aller, en fait, pour si jamais on avait envie de rencontrer d'autres tchèques. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire.
Alors, quels sont les membres fondateurs et quels sont leurs profils?
On est une dizaine de fondateurs. Moi-même, la présidente Lenka Belkova, elle est étudiante à Paris-Sorbonne. Elle travaille par ailleurs au consulat tchèque à Paris et également elle donne des cours de tchèque dans le cadre de l'école de langue tchèque qui donne des cours aux enfants les samedis matins. Moi-même, j'ai fait le lycée Carnot à Dijon. Ensuite, j'ai poursuivi par les études à Sciences Po Paris et je travaille déjà actuellement, donc je fais partie des jeunes professionnels, disons. Et après, par exemple, il y a Martine Polivka qui est le porte-parole de l'association et lui, il a également fait Sciences Po et il travaille actuellement dans le conseil. On a aussi, également parmi nous des doctorants dans le domaine des sciences politiques ou autres. On a des personnes qui ont poursuivi leurs études plutôt en République tchèque, mais qui sont actuellement en France pour soit poursuivre leurs études ou bien pour travailler. Donc ce sont des profils assez divers. Et il y a clairement ce qui nous unit, ce qui nous lie, c'est notre volonté donc de créer un réseau, de tisser des liens, d'organiser des choses et également d'aider, parce que ceux qui iront voir sur notre site verront qu'on a mis en place, on est en train de mettre en place un certain nombre d'outils ou de conseils pour tous ceux qui sont intéressés pour venir en France, que ce soit pour étudier ou pour travailler. Donc vraiment qu'ils aient une sorte de source d'information qui pourrait les aider dans leur démarche.
C'est assez rare. D'ailleurs, on dit que les Tchèques ont plutôt tendance à vouloir s'intégrer individuellement et qu'ils ont même plus de mal que les Slovaques à se réunir entre eux dans des groupes de diaspora. Est-ce que vous voulez changer ça, justement ?
Je ne sais pas s'il est question de changer. Déjà, je ne suis pas certain qu'on puisse généraliser. Après, c'est vrai qu'on dit ça souvent même. Après, est-ce que c'est vrai? Je ne saurais pas le dire. En tout cas, nous, les fondateurs et ceux qui viennent à nos événements, parce qu'on a déjà organisé une première conférence au mois de novembre, et on s'est présenté déjà à la journée des étudiants tchèques organisée par l'ambassade fin novembre. Donc ceux qui viennent à nos événements et nous-mêmes qui sommes membres fondateurs, nous constatons qu'il y a qu'il y a place pour ça, que c'est intéressant, que ça peut nous enrichir tous. Ça peut aider aussi ceux qui sont nouveaux, par exemple. Imaginez-vous que vous faites un échange avec une université en France, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, et vous connaissez personne, donc peut-être que vous vous dites que ça pourrait être sympa de, ne serait-ce qu'au début, pouvoir échanger et s'appuyer sur l'expérience et les conseils des autres. Donc on veut vraiment essayer de créer ce cercle. Après, bien entendu, s'il y en a qui préfèrent toujours faire connaissance de la France eux-mêmes, bien entendu, il n'y a aucune obligation, mais au moins ceux que ça puisse intéresser, on est là pour ça.
Merci Dominique Zun, je rappelle que vous êtes le vice-président de cette nouvelle association des étudiants et jeunes professionnels tchèques en France et vous trouverez l'adresse du site internet de cette association sur le site de Radio Prague. Merci beaucoup et bonne journée à Paris.
Merci.
C'est la fin de ces faits-événements. Merci de votre attention. Merci également de bien vouloir rester encore quelques instants en notre compagnie. La suite de notre programme est consacrée à la rubrique Tchèque célèbre et moins célèbre. Et cette fois, c'est le portrait du peintre Václav Radimsky. Le peintre impressionniste tchèque Václav Radimsky a passé 28 années de sa vie en France, ami de Claude Monet. Il a vécu et travaillé près de Giverny, Charmé, tout comme d'innombrables peintres français et tchèques par cet endroit, avec cette même passion pour la nature, l'eau, la couleur, la lumière et la fugacité du moment vécu en plein air. Václav Radimski peignait également sa région natale, les environs de l'Elbe. Il a laissé derrière lui une œuvre immense dont seulement une partie, environ 200 toiles, est exposée jusqu'au 5 février prochain à la bibliothèque municipale de Prague. Václav Radimski, mort il y a 65 ans et dont nous vous rappellerons dans quelques mois le 145e anniversaire de la naissance, vous est présenté par Magdalena Rosinkova.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Artiste extrêmement prolifique qui a connu la popularité et le succès commercial de son vivant, un homme entreprenant, amoureux de la vie, le plus impressionniste semble-t-il des peintres tchèques et aussi l'un des artistes tchèques les plus proches de la France, pays avec lequel il a vécu une longue et malheureuse histoire d'amour. C'est Václav Radimski, né le 6 octobre 1867 à Kolíně en Bohême centrale, une charmante petite ville située dans la vallée de l'Elbe. Le père de Václav Radimski, juriste, a été maire de Kolíně et également propriétaire du moulin situé dans le quartier de la ville appelé Záhlabí. Le plasticien Aleš Rezler, qui a organisé en 2006 une exposition de Radimski à la galerie Félix Jenevein de Kutná Hora, écrit dans le catalogue de cette exposition.
Il est évident que l'enfance de Václav a été littéralement baignée par l'Elbe, par ce cours d'eau jadis pur, moyen de subsistance mais également moyen de divertissement pour les enfants, avec ses possibilités de baignade, ses plages de sable et ses cachettes. La rivière, plan d'eau étonnant de par sa force, son côté effréné et ses caprices, a accompagné Václav tout au long de sa vie. Rien ne lui était plus familier qu'une rivière.
Václav Radimski, qui aurait hérité le talent pour le dessin de sa mère, a fait ses premières esquisses lorsqu'il était élève du lycée de Kolíně. Radimski effectue ensuite de courts séjours d'études aux Beaux-Arts de Vienne et de Munich pour se rendre très tôt, vers l'âge de 23 ans, à Paris. Nous écoutons l'historien de l'art Karel Srp.
La première période importante dans sa carrière de peintre ne commence pas en France, mais par ses études à Vienne. Radimski a étudié à l'école des Beaux-Arts chez Lichtenfels, qui était un grand paysagiste. Mais cela ne convenait pas à Radimski. Probablement, il s'ennuyait, même s'il a créé à cette époque-là une série de très belles toiles. S'il était resté à Vienne, il serait à coup sûr devenu un des plus importants paysagistes autrichiens réalistes.
Aleš Rezler ajoute dans son catalogue une raison supplémentaire et plus prosaïque au départ de Radimski à Paris en 1890. Une seule année passée à Vienne a suffi, paraît-il, au jeune Radimski pour dépenser l'argent hérité de sa mère, morte lorsqu'il avait 3 mois seulement, et qui était destiné, comme le souhaitait sa belle-mère, à financer ses études artistiques. Václav Radimski met donc le cap sur Paris, où il est accueilli et soutenu par la peintre tchèque Zdenka Braunerová, qui le présente également à ses amis français. Radimski découvre Barbizon, lieu de prédilection des peintres paysagistes. Il y rencontre les peintres impressionnistes et se lie d'amitié avec Claude Monet et Paul Cézanne, et notamment avec ce dernier, Radimski partage même un atelier à Paris. À Barbizon, Radimski peint le premier de ses célèbres tableaux intitulé « Études de fougères », pour lequel il est récompensé en tant que plus jeune peintre au Salon de Paris en 1894. Dans les écrits de Radimski, Aleš Rezler a trouvé une brève remarque à ce sujet.
Lorsqu'une enveloppe avec un cachet doré est arrivée à Barbizon, tout le village fêta l'événement pendant environ une semaine.
Radimski enchaîne avec d'autres récompenses, la médaille d'or à Rouen et à l'exposition universelle à Paris. À l'instar de Claude Monet, Václav Radimski s'installe près de Giverny, dans le village du Goulet, où il achète un vieux moulin appelé la Bergamote. Cette région, située dans la vallée de la Seine, à la limite de la Normandie et de l'Île-de-France, inspire le peintre tchèque pendant plus de 20 ans. Karel Srp explique.
Les peintres de l'école de Rouen, le cercle qui s'était formé autour de Claude Monet, ont aidé Radimski à trouver sa propre voie. à laquelle il est d'ailleurs resté fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Désormais, il sera concentré sur les reflets de l'eau, sur la surface de l'eau en tant que telle, sur le temps qui s'écoule. C'est, je crois, le trait principal de son œuvre, les reflets, l'effet de miroir, tous ces sujets qui expriment l'unité et l'intégralité de l'univers sont typiques pour Radimsky, qu'il peigne le printemps ou l'hiver.
Nadiežda Blažičková-Horová, commissaire de la grande rétrospective pragoise de Radimsky, ajoute.
Ce qui l'intéressait, ce n'était pas le paysage en tant que tel, mais les conditions atmosphériques et l'éclairage dans lesquels il essayait de les capter, c'est-à-dire le paysage sous la pluie, sous l'orage, dans une bourrasque, le paysage baigné par le soleil au lever du jour, au crépuscule. Radimsky était capable de peindre jusqu'à 4 tableaux en même temps, comme on le voit sur une photographie. Sur les 4 tableaux du même format, il y avait le même paysage, mais peint à différents moments de la journée, et aussi le beau et le mauvais temps.
En 1899 a lieu la première exposition de Václav Radimsky à Prague. Elle a rassemblé 88 tableaux et a constitué en soi un premier contact du public tchèque avec le style impressionniste. Depuis, Radimsky expose régulièrement en Bohême, où il vient souvent pour rendre visite à sa famille, et évidemment au Salon de Paris, mais aussi un peu partout en Europe, à Londres, à Vienne, à Varsovie. Nous l'avons déjà dit, Václav Radimsky avait aussi un talent commercial. Avant la Première Guerre mondiale, il a fondé avec un de ses frères une usine de production de conserves de marque Bohemia. Cette usine fournissait des conserves de volailles, de pâtés de gibier, de foie gras truffé et du Périgord, ainsi que des plats en conserve comme le goulash ou les saucisses de Prague. Radimsky savait profiter de ses voyages d'affaires pour peindre et aussi pour exposer et vendre ses tableaux à travers l'Europe. En 1907, Radimsky fait la connaissance de sa future épouse, Louise Fromont, une Française de Vernon. Leur fille unique meurt de la scarlatine quelques mois après sa naissance. En juin et juillet 1914, Radimsky accueille sa famille tchèque au Goulet. Fin juillet, suite à la déclaration de la Première Guerre mondiale, la famille de Radimsky se dépêche de retourner en Bohême. Coup très dur pour le peintre. En tant que sujet autrichien, donc ressortissant d'un pays ennemi, il est mis en prison. Suite aux interventions de quelques amis influents, et notamment du Premier ministre Georges Clemenceau, qui possédait l'un de ses tableaux, Radimsky est libéré et interné ensuite au Goulet. Désenchanté, Václav Radimsky a quitté la France en 1918, après y avoir vécu pendant 28 ans, et il est retourné définitivement en Bohême. Jusqu'à sa mort en 1946, il a vécu avec son épouse française dans la propriété familiale à Pachinka, près de Kolyne, sa ville natale. Aleš Rezler, fin connaisseur de l'œuvre de Radimsky, constate que le peintre a accepté son nouveau rôle d'artiste national, de peintre de la vallée de l'Elbe. Ce peintre, un des artistes les plus prolifiques, les plus vendus et les plus aimés du public de l'entre-deux-guerres, a tout de même été vu d'un mauvais œil par la scène artistique tchèque de l'époque, étant considéré comme un épigone de Monet dont la peinture est répétitive et trop plaisante. Ce n'est qu'au début du nouveau siècle que nous assistons à un nouvel engouement pour l'œuvre de Václav Radimsky dans son pays d'origine.
Voilà, et c'est déjà la fin du bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Ahoy.